Vous allez écouter Sur ma route, une émission réalisée en partenariat avec la préfecture de Vaucluse dans le cadre du plan départemental d'action de sécurité routière.
Bonjour à tous, bienvenue dans l'émission Sur ma route, une émission sur la sécurité routière. Pour faire cette émission, je suis avec le commandant de l'escadron départemental de sécurité routière, le commandant Jean-Pierre Ayassa. Bonjour commandant.
Bonjour.
Je suis aussi avec monsieur Vincent Doyer, directeur régional Grand Est de l'association Prévention Routière. Bonjour monsieur Doyer.
Bonjour.
Alors le sujet de l'émission d'aujourd'hui, ce sera les départs en vacances. Et je vais commencer par vous, commandant de l'EDSR. Tout d'abord, qu'est-ce que l'EDSR? Quel est son rôle et quelles sont ses missions?
Alors l'EDSR, donc, c'est un escadron départemental de sécurité routière qui agit au niveau du département. Et donc pour le Vaucluse, j'ai composé de 75 militaires. Et sa mission première, bien sûr, c'est le contrôle des flux. Le contrôle des flux routiers notamment. Alors bien sûr, dans ce contrôle des flux, il y a la surveillance, le contrôle et la prévention sur la route. Le but ultime, c'est de faire baisser l'accidentologie. C'est ça le but d'un gendarme de sécurité routière. Donc par une présence visible sur la route ou sur l'autoroute, par des contrôles préventifs et quelquefois, bien sûr, répressifs lorsque des personnes mettent en danger la vie des autres.
D'accord. Monsieur Doyer, pouvez-vous nous présenter les différentes actions et le rôle de la sécurité routière Provence-Alpes-Côte d'Azur?
Alors, l'association Prévention Routière existe depuis plus de 70 ans et son objectif, c'est de lutter et d'arriver à réduire le nombre et la gravité des accidents de la circulation. Nous menons des actions de la maternelle au senior en passant par le monde de l'entreprise et nous y menons des actions de tout type pour sensibiliser les usagers de la route aux différents risques routiers.
Monsieur Doyer, avant de faire un long trajet pour son départ en vacances, y a-t-il des précautions particulières et des vérifications importantes à effectuer sur son véhicule?
Bien sûr, avant de prendre la route, la vérification de l'état du véhicule est un point essentiel. Parmi ces points, on dira évidemment vérifier les niveaux de liquide, de lave-glace, parce que bien voir, c'est essentiel. L'huile, les liquides de frein, les liquides de refroidissement en cas de forte chaleur, surtout dans nos régions. Donc, ces niveaux de liquide, c'est extrêmement important. Également très important, le niveau de pression des pneus. Des pneus sous-gonflés, c'est un élément de dangerosité. Et donc, il ne faut pas hésiter d'abord à vérifier cette pression et puis à ajouter 0,2, 0,3 bar aux pressions préconisées si votre véhicule est chargé. Et vous retrouvez toujours des indications de pression, soit dans le carnet d'entretien, soit sur la tranche de la portière avant gauche, ou encore dans la trappe à carburant. Bien sûr, vérifiez l'état de vos pneus, parce que la structure d'un pneu doit assurer la bonne tenue de route. Si vous ne savez pas l'évaluer vous-même, il faut avoir recours à un garagiste ou à un professionnel du pneu. Et puis, dernier point, évidemment, tout ce qui concerne l'éclairage, la signalisation, la visibilité, pour à la fois bien voir lorsque l'on est conducteur, mais être également bien vu des autres conducteurs. Donc bien nettoyer son pare-brise à l'intérieur et à l'extérieur, et puis toutes les surfaces vitrées du véhicule doivent être également nettes et propres.
À vous, commandant, avez-vous des exemples de mise en danger de la vie d'autrui qu'on retrouve tous les ans?
Alors, je rappelle à chaque année sur toutes les radios, un point important, c'est l'arrimage de son chargement. Quand je dis l'arrimage de son chargement, c'est toutes les personnes qui sont sur les barres de toit, des vélos, des valises, tous ces types d'objets qui sont mal arrimés et qui chaque année causent des accidents graves, voire des carambolages. Parce que lorsqu'on perd un vélo sur une autoroute et lorsqu'on circule à 130 km/h, c'est un danger important. Et chaque fois, on me dit, j'avais oublié de bien cingler, la corde s'est arrachée. Enfin, il y a toute une liste d'exemples qui chaque année, causent beaucoup d'accidents. Donc moi, je parle toujours de l'arrimage de son chargement.
Puisqu'on parle de l'arrimage, justement, est-ce qu'il y a une hauteur maximum autorisée pour la charge sur le toit?
Bon, alors là, c'est du bon sens. Nous, on le fait à l'œil. C'est-à-dire que le gendarme, lorsqu'on va voir une personne qui est, nous, on appelle ça en surcharge, quoi. J'allais dire que ça se voit visuellement. Une personne qui a un frigo en hauteur sur son véhicule, il peut pas circuler. C'est pas fait pour ça, un véhicule léger. Donc, la surcharge, pour voir quand c'est qu'on est en surcharge, c'est simple, on passe sa carte grise. Il y a un poids total autorisé et il ne faut pas le dépasser.
On passe à un autre sujet. Y a-t-il des dispositions particulières à prendre pour un départ en vacances à moto?
Alors, donc, moi, j'allais dire qu'à moto ou en voiture, un ou l'autre, c'est simplement du bon sens. On doit partir, on doit être reposé. Donc lorsqu'on prend la moto, pareil, l'arrimage d'une moto, c'est comme le véhicule. On a soit des sacoches qui sont prévues pour, et on ne doit pas surcharger avec, quelquefois, on voit, lorsqu'on est sur l'autoroute, on voit des motos surchargées comme les véhicules. Donc pareil qu'un véhicule, on doit contrôler, bien sûr, ses pneumatiques. On doit contrôler ses niveaux liquides de refroidissement. On doit contrôler l'état d'usure des pneus. C'est à peu près pareil que le véhicule, l'état de ses rétroviseurs, de l'ensemble de la mécanique du véhicule.
Quelles sont les précautions à prendre avant de faire un long trajet sur le plan physiologique, commandant ?
Donc chaque fois, je le dis pareil aussi chaque année, hein, on doit partir tout simplement reposer. Et ça, c'est que du bon sens. C'est-à-dire qu'il vaut mieux partir plus tôt le matin ou tard dans la soirée pour éviter la canicule. Bien évidemment, on ne prend pas la veille ni alcool ni médicaments. Et on évite les repas copieux qui favorisent la somnolence au volant. Et bien sûr, il faut bannir le stress et l'énervement lorsqu'on part en vacances. Il faut aussi, avant de partir, qu'on prévoie pour occuper les enfants. Pourquoi ? Parce que tout le monde l'a connu, lorsqu'on part en vacances, les valises, l'ensemble des personnes dans l'habitacle, tout ça, les enfants qui gesticulent, ça favorise du stress et de l'énervement.
Donc les boissons énergétiques ne sont pas bonnes pour la vigilance ?
Et moi, je dis toujours, il n'y en a qu'une des boissons qui est bonne, c'est de l'eau plate.
Ou du café ?
Là, on s'arrête toutes les deux heures. Ça c'est répété, hein. C'est répété sur toutes les radios, les radios d'autoroute. Toutes les deux heures, il vaut mieux s'arrêter. On s'arrête à une heure, on boit son café, on se décontracte, on se délasse, et après on reprend la route en forme. Donc je dis toujours, on prend la route, on doit être reposé, ni énervé et ni stressé.
Alors, en cas de panne sur l'autoroute, quel est le meilleur comportement à adopter ?
Alors, en cas de panne sur l'autoroute, premièrement, on se met en sécurité sur la bande d'arrêt d'urgence. On sort par la portière de droite. On s'équipe du chasuble avant de sortir. Et on se met derrière la bande d'arrêt d'urgence. C'est-à-dire que dès qu'on sort du véhicule, même pas on regarde notre véhicule. Non, la première mission, c'est de se mettre en sécurité. C'est très dangereux d'être sur BAU. Et on dit, des statistiques disent qu'au bout de 20 minutes, notre vie risque d'être en danger dès 20 minutes sur l'autoroute. On est des professionnels de l'autoroute, on est à bord de nos véhicules, avec gyrophare, avec chasuble, et quelques automobiles se nous frôlent de près lorsqu'on travaille. Alors imaginez-vous un simple citoyen qui n'est pas au fait de la circulation sur l'autoroute. Donc première des choses, on tombe en panne sur l'autoroute, on se met sur la bande d'arrêt d'urgence, on allume ses feux de détresse, on met son gilet réfléchissant et on se positionne derrière la barrière de sécurité. Et bien sûr, après, on appelle les secours.
Donc, j'avais une autre question, mais je pense que vous avez répondu. C'était, a-t-on le droit de s'arrêter sur la bande d'arrêt d'urgence pour une autre raison qu'une panne ?
Chaque année, dès que j'ai des grands chassés croisés, j'ai des patrouilles qui me verbalisent des personnes qui remontent par mon BAU, bande d'arrêt d'urgence. Je rappelle que ces bandes d'arrêt d'urgence sont spécifiques pour nous, pour les secours. Et plus on se projette rapidement sur les lieux d'un événement, plus ça favorise bien sûr l'arrivée des secours et surtout on arrive à remettre en circulation l'autoroute. Donc chaque personne qui circule sur l'autoroute, elle croise un gendarme sur l'autoroute à celle qui la verbalisera.
Et quelles sont les précautions à prendre en cas de crevaison ou de changement de roue, en prenant l'exemple d'une roue arrière gauche ? Ça m'est arrivé personnellement justement.
Dès qu'on s'arrête sur l'autoroute, on est en danger. Ça c'est la phrase que je dis aux automobilistes. Donc la meilleure des choses à faire, on est arrêté, on crève, toujours pareil, chasuble, derrière les barrières de sécurité, on téléphone. Donc le dépanneur, on a un protocole sur l'autoroute qui n'est pas pareil sur les départementales. Le dépanneur a une obligation d'agir dans un délai très restreint. Donc c'est pas la peine de rappeler plusieurs fois. Une fois que vous appelez une fois les secours, vous avez le dépanneur dans les 15-20 minutes.
Oui, parce que moi, j'ai collé la voiture à la barrière de sécurité. J'avais mis un triangle une centaine de mètres avant, et puis j'avais mis mon gilet jaune, mais j'étais pas rassuré. J'ai eu très peur, mais j'ai fait ça très vite quand même.
Alors ça, monsieur Bruno, il y a tout faux. Il y a rien qui est bon dans ce que vous avez fait.
Alors dites-moi.
Alors déjà, on ne reste pas sur l'autoroute. Ça, c'est primordial. Si vous travaillerez avec nous, vous verrez le danger effroyable que c'est. D'ailleurs, il y a un fourgon de Vinci. Je ne sais pas si vous l'avez vu, on l'a mis au milieu, là, sur l'ensemble de Provence. Je vous informe que beaucoup de fourgons dans l'année de Vinci, donc il faut savoir que ce sont des fourgons qui sont lumineux, ils sont voyants, et même eux sont percutés. Donc imaginez-vous un simple automobiliste avec son petit triangle chasseur du bout. Non, on a une difficulté, on se met sur bande d'arrêt d'urgence, et derrière les barrières de sécurité immédiatement.
D'accord, eh ben vous me rassurez pas là, mais la prochaine fois, c'est ce que je ferai. Je préférerais attendre un agent de sécurité qui vienne me changer ma roue ou remporter ma voiture plutôt que de réparer ma crevaison.
Non, mais c'est pour ça qu'on a des délais, restreints. Vous allez avoir un patrouilleur qui va venir dans les 5 minutes. Vous allez avoir le garagiste qui va arriver dans les 15 minutes. Si on peut faire le tour, c'est une grande ville. Et tous ces partenaires, dont la gendarmerie fait partie, on est habitué à travailler ensemble. Donc, si vous préférez, votre parenthèse, votre petite crevaison, c'est des trucs qu'on fait quotidiennement. J'allais dire même tout journalement, on en a peut-être 10-15 de cas comme ça. Donc, on le gère assez facilement. Oui, tous les partenaires sont impliqués rapidement parce qu'on sait la dangerosité de l'autoroute.
Alors, une question à Monsieur Doyer. On passe à un autre sujet. Comment sensibiliser les jeunes conducteurs aux dangers de l'alcool et des drogues et quels sont leurs effets sur la vigilance et les réflexes au volant?
Alors, c'est tout le travail de tous les intervenants en sécurité routière et en prévention routière, notamment de l'association Prévention routière, d'intervenir auprès des jeunes, des adolescents et des un peu plus grands sur sur ces dangers de l'alcool, sur ces dangers de l'usage des stupéfiants. C'est pas compliqué, comme l'a dit tout à l'heure le commandant. L'objectif, c'est de voyager en sécurité. On ne peut pas rouler lorsqu'on a bu ou lorsqu'on a usé de stupéfiants. Donc, on mène tous les ans et de manière régulière des actions sur le terrain auprès des jeunes conducteurs, mais pas que des jeunes, auprès de l'ensemble des conducteurs pour montrer les dangers de l'alcool, avec par exemple des outils qui stimulent la perte de vision et la perte de clairvoyance et de réflexe que l'on peut avoir lorsque l'on roule de manière alcoolisée. Donc, c'est des actions qui peuvent utiliser des simulateurs, qui peuvent utiliser des lunettes qui simulent ces effets. Et puis, bien entendu, il y a des actions, par exemple, de la prévention routière à la sortie des boîtes de nuit. Celui qui conduit, c'est celui qui ne boit pas. Donc, toutes les actions de capitaine de soirée, les actions SAM, comme on dit chez nous.
Alors, une question au commandant. La consommation d'alcool et de stupéfiants est-elle plus importante pendant les vacances?
Oh, ça va être difficile de répondre, puisque nous, toute l'année, nous menons des opérations. Donc là, pour le coup, ce sont des opérations répressives, puisque nous sommes aux abords des boîtes de nuit. Pendant des heures, bien sûr, où il y a plus de populations festives. Donc nous, on fait ça toute l'année. Si vous préférez, bien sûr, quoi. L'été, on le fait également, mais toute l'année, nous relevons des conduites stupéfiants et des conduites sous alcool. Donc on fait ça, nous, c'est notre mission principale, parce que c'est un véritable fléau sur la route, l'alcool et les stupéfiants. Donc on mène une bataille régulière tout au long de l'année. Donc essentiellement, nous, l'hiver, c'est le samedi dimanche, bien sûr, hein, puisque c'est là que c'est beaucoup festif. Mais aussi, on peut trouver des personnes pour alcooliser la semaine, et voilà, et pas que de jeunes personnes, quoi.
Quels sont les facteurs les plus meurtriers sur les routes et autoroutes?
Alors le premier, c'est la vitesse, je vais dire. En premier, vitesse, après l'alcool et la conduite sous stupéfiant. Voilà les trois, si vous préférez. Nous, l'action des EDSA est concentrée sur les conduites addictives et les infractions graves génératrices d'accidents. Donc la vitesse, l'alcool, les stupéfiants et le port du téléphone au volant.
Alors, rouler à plus de 130 km/h sur l'autoroute fait-il vraiment gagner beaucoup de temps?
Ah non, ça a été établi avec des statistiques depuis de nombreuses années, et moi je le répète chaque fois, quoi. Les personnes qui circulent au-delà de la vitesse sur une longueur d'autoroute, ils ne vont pas gagner énormément de temps. Par contre, ils vont prendre plus de risques, ça c'est certain.
Bon, nous allons faire une petite pause musicale. Commandant, je vous remercie d'avoir été avec nous. Nous continuerons dans quelques instants avec Monsieur Doyer.
Je vous remercie.
Merci, commandant. Au revoir.
Bonne journée à tous les deux. Au revoir.
Sur ma route, oui, il y a eu du move, oui, de l'aventure dans le movie, une vie de route. Sur ma route, oui, je ne compte plus les soucis, de quoi devenir fou, oui, une vie de route. Sur ma route, oui, il y a eu du move, oui, de l'aventure dans le movie, une vie de route. Sur ma route, oui, je ne compte plus les soucis, de quoi devenir fou.
J'avais pas de bagages en soute et dans ma poche pas un sou, juste la famille entre nous.
Sur ma route y'a eu un tas de bouchons. La vérité, j'ai souvent trébuché. Est-ce que tu sais que quand tu touches le fond, il y a peu de gens chez qui tu peux te réfugier? Tu peux compter que sur tes chers parents, parce que les amis, eux, disparaissent un par un. Oui, il m'arrive d'avoir le front au sol, parce que Dieu est grand et on est seul, on meurt seul.
Sur ma route, oui, il y a eu du move, oui, de l'aventure dans le movie. Une vie de route. Sur ma route, oui, je ne compte plus les soucis. De quoi devenir fou, oui. Une vie de route. Sur ma route. Fait des coups en douce, l'impression que mon cœur en souffre, mais je suis sous anesthésie. Sur mon chemin, j'ai croisé pas mal d'anciens, ils me parlaient du lendemain et que tout allait si vite.
Ne me parle pas de nostalgie, parce que je t'avoue que mon cœur est trop fragile. Je suis comme un pirate naufragé. Oui, mon équipage est plus qu'endommagé. Je sèche mes larmes, je baisse les armes. Je veux même plus savoir pourquoi ils me testent les autres. S'il y a plus rien à prendre, je sais qu'il me reste une chose. Et ma route, elle est trop longue, pas le temps de faire une pause.
Sur ma route, oui, il y a eu du move, oui, de l'aventure dans le movie. Une vie de route. Sur ma route, oui, je ne compte plus les soucis. De quoi devenir fou, oui. Une vie de route. Sur ma route.
Nous sommes toujours dans l'émission Sur ma route, émission sur la sécurité routière, avec comme sujet aujourd'hui les départs en vacances. Je suis avec Monsieur Doyer, directeur régional du Grand Est de l'association Prévention routière. Et donc, on va continuer les questions. Avez-vous des conseils pour les longs trajets en période de canicule?
Oui, bien sûr. En période de canicule, en période chaude, l'idéal, c'est d'essayer de décaler son départ sur les périodes où il fait un peu moins chaud, un peu plus frais, tout en évitant les heures propices à la somnolence, qui sont les heures entre 2 et 5 heures du matin et les heures entre 13 et 15 heures de l'après-midi. Donc, essayer de bien aérer également et de manière régulière son véhicule pour renouveler l'air. Et puis, c'est l'occasion d'en profiter pour faire une pause la plus fréquente possible et en tout cas au minimum toutes les 2 heures. N'oubliez pas de faire des pauses encore plus fréquentes si vous voyagez avec des enfants ou des personnes âgées. Dans le véhicule, conseil supplémentaire, buvez de l'eau. Donc, prenez la précaution également d'emporter de l'eau dans votre véhicule. Vous pourriez être coincé, par exemple, dans un bouchon. Donc, il est important d'avoir de l'eau en réserve dans son véhicule. On pourrait aussi, sur la température de l'habitacle intérieur, il faut régler la climatisation de façon à ce que la différence entre la température intérieure et la température extérieure soit modérée. On conseille en général 4 à 5 degrés, guère plus, d'abord parce que c'est un écart qui est de confort, et puis c'est un écart qui va vous éviter une surconsommation également de manière trop importante. Voilà les quelques conseils, et bien évidemment sur l'aire d'autoroute, lorsqu'on fait la pause, on essaye de se garer à l'ombre, où on n'oublie pas de mettre un pare-soleil pour éviter la remontée en température de l'habitacle.
Alors, doit-on être plus prudent lors des départs en vacances que lors des trajets quotidiens?
Tout toujours être prudent dans tous les cas. En tout cas, lorsque l'on part en vacances, le conseil de prudence, c'est de préparer son trajet. C'est vrai que sur le trajet du quotidien, on connaît son environnement, on connaît les risques, qui peut être un facteur de distraction et du coup d'accidentologie. Mais là, on va partir sur des routes, des autoroutes qu'on ne connaît pas, sur un trajet qu'on n'a pas fait depuis longtemps. Et puis avec les confinements, ça fait longtemps peut-être qu'on n'a pas fait de longs trajets. Donc le premier conseil, c'est vraiment de préparer son trajet, de le préparer en regardant la route, en préparant son GPS, parce qu'il ne s'agit pas d'apprendre à le manipuler ou à programmer son trajet en roulant, pour pas être distrait par cet outil. De bien préparer aussi son véhicule la veille, ou l'avant-veille, mais la veille au minimum, pour pas être dans le stress du départ et du chargement, et que ce temps de préparation n'empiète pas sur le sommeil. Voilà. Donc ça, c'est les éléments essentiels pour bien partir.
Les trajets quotidiens sont-ils plus dangereux que les longs et nouveaux trajets pour partir en vacances ?
Les accidents ont souvent lieu à proximité de chez soi, dans un rayon très restreint par rapport à son environnement, parce qu'on croit connaître les dangers, mais les dangers ne préviennent pas et ils peuvent surgir à n'importe quel moment. Ce qui va être très différent entre ces deux types entre les types d'accidents à proximité de chez soi et sur les grands trajets, ça va être souvent les facteurs d'accident ou les facteurs aggravants d'accident, que sont la vitesse, l'usage du téléphone. Donc il faut être vraiment très vigilant, qu'on soit vraiment proche de chez soi ou en train de partir pour un trajet.
Alors vous en parliez à l'instant, le téléphone, quelles sont les règles en ce qui concerne le téléphone portable en voiture ?
La meilleure des règles, c'est pas de téléphone en voiture. Et d'une manière générale, pas d'outils qui puissent vous distraire lorsque vous êtes en train de conduire. La meilleure des positions d'un téléphone, c'est éteint dans un sac à main ou dans une poche pour qu'il ne puisse pas être un facteur distrayant du conducteur. Si vous êtes amené à utiliser votre téléphone, les usages autorisés sont l'usage du Bluetooth. Donc, sont proscrits absolument tout ce qui est oreillette, casque, que ce soit avec fil ou sans fil.
D'accord, donc pas de main libre, de kit main libre.
Pas d'éléments dans l'oreillette. Vous avez des kits main libres qui sont intégrés en fait au véhicule et ceux-là sont légaux.
D'accord. Alors on va revenir un peu sur l'autoroute. Sur l'autoroute, la nuit, faut-il rallonger les distances de sécurité ?
Il faut absolument, de toute façon, garder une distance entre deux véhicules. C'est vrai que la nuit, on peut être trompé par les phares des véhicules qui viennent à contresens, par les feux arrière de position des véhicules. Donc, il faut effectivement redoubler de vigilance lorsqu'on circule la nuit et que l'on n'est pas forcément habitué à ce type de réaction. Pour calculer la bonne distance de sécurité, il suffit de multiplier par 6 la vitesse à laquelle on roule. Donc, si vous roulez à 50 km/h, la bonne distance de sécurité, c'est 6 fois 5, donc ça fait 30 mètres. Si vous roulez à 130 km/h, c'est 13 fois 6, 78 mètres. Ça, c'est vraiment primordial de toute façon, de laisser un maximum de distance de sécurité, sachant qu'il faut au minimum entre 1 et 2 secondes pour réagir lorsqu'on veut amorcer un freinage. Donc, vous voyez, vous avez déjà perdu 1 à 2 secondes de temps de réaction. Et puis après, avoir fenêtre qui vous permettre de ralentir ou de vous arrêter de manière urgente. Donc toujours bien garder la bonne distance de sécurité, sachant que la nuit, surtout ce qu'il ne faut pas faire, c'est lutter contre l'endormissement. On a tous eu des picotements, on a eu tous tendance peut-être à ouvrir la fenêtre, à accélérer ou à essayer de lutter contre. C'est vraiment ce qu'il ne faut pas faire. Ces éléments sont des éléments de micro-sommeil. Ça veut dire que là, on a perdu pendant quelques micros ou secondes les yeux sur la route. Et donc, il faut vraiment dire à l'annonciateur qu'il faut s'arrêter, qu'il faut passer devant, qu'il faut faire la pause. Mais surtout, le message à retenir, c'est la bonne distance de sécurité et on n'essaye pas de lutter contre l'endormissement, on s'arrête, on passe le bord.
Très bien. Le télépéage, fait-il vraiment gagner du temps sur l'autoroute ?
Le télépéage, il va surtout vous faire gagner en confort pour passer le péage. Ce n'est pas forcément un gain de temps, comme on l'a dit tout à l'heure, sur une distance où vous augmenteriez votre vitesse de manière de 130 à 140, par exemple, vous n'allez pas gagner un temps immense. Donc le télépéage, c'est pas forcément un gain de temps, mais ça peut être un gain en confort. C'est un gain en confort parce que ça va vous éviter un bouchon, un élément de la patience, un élément qui pourrait vous apporter du stress. Donc de ce côté-là, ça peut être un élément intéressant pour les conducteurs qui veulent vivre ce passage du péage le plus tranquillement possible.
Alors un autre sujet complètement différent, le chien doit-il obligatoirement être attaché à l'arrière du véhicule ?
Ah, les animaux. Les animaux, déjà, on les oublie pas, hein, les animaux de compagnie, lorsqu'on s'arrête en pleine chaleur, et surtout, on les abandonne pas au bord de la route. Pour répondre à votre question, le code de la route ne dit rien de façon explicite au sujet des animaux domestiques en voiture. Il est admis, cependant, qu'ils ne doivent pas être en totale liberté dans l'habitacle. Donc, on préfère donner le conseil que l'animal doit être attaché. Les animaux de compagnie peuvent avoir des réactions vraiment imprévisibles, de sauter sur le conducteur, glisser entre ses jambes. Et puis, comme tout bagage, en cas de freinage brutal ou de choc, il peut être blessé, peut être projeté sur les passagers. Et en cas de collision, par exemple, 50 km/h, un chien de 35 kg, ça fait un projectile qui aurait pesé une tonne. Donc c'est vraiment quelque chose qui a vraiment à prendre en compte. Tout comme on arrime bien les bagages, tout comme on organise bien son coffre, on pense bien à la sécurité de son animal de compagnie et à sa propre sécurité lorsque l'on voyage avec son animal.
Est-ce que vous avez d'autres conseils ou un message à donner aux auditeurs avant leur départ en vacances ?
Dans ce qu'on peut voir assez régulièrement, c'est aussi les personnes qui voyagent voire qui conduisent en tongs. Je ne sais pas, mais les tongs, les talons aiguilles ou même conduire pieds nus, tout ça, c'est pas interdit. Par contre, c'est très fortement déconseillé. Vous devez être capable, de toute manière et en tout temps, d'effectuer des manœuvres en toute sécurité. Et c'est pas toujours simple de pouvoir réagir lorsqu'on n'est pas bien chaussé. Si on conduit avec des tongs, le freinage est en général deux fois plus long parce que ça a tendance à glisser, à pointer. Ça, c'est vraiment très important à noter. Autre conseil, la conduite torse nu, ça peut être tentant lorsqu'il fait très chaud, mais ça reste risqué. Parce qu'en cas de choc, la ceinture, elle va certes vous protéger, vous retenir sur votre siège, mais si elle frotte directement contre votre peau, vous serez brûlé de manière assez importante par le frottement. Donc ça fait vraiment partie des conseils qu'on peut redonner sur la bonne tenue, entre guillemets, à adopter dans son véhicule.
Très bien. Bah écoutez, Monsieur Doyer, je vous remercie d'avoir été là pour cette émission. Je rappelle que vous êtes le directeur régional Grand Est de l'association Prévention Routière, que nous avons eu en première partie d'émission le commandant d'escadron départemental de sécurité routière, le commandant Jean-Pierre Ayassa. Je vous souhaite une bonne fin de journée.
Et bonnes vacances à tous. Bonne route.
Merci, au revoir.
Vous venez d'écouter Sur ma route, une émission réalisée en partenariat avec la préfecture de Vaucluse dans le cadre du plan départemental d'action de sécurité routière.